Hey, salut Mad, ça va?
Salut président, alors comment se sont passées les vacances?
Bah écoute, plutôt bien, elles étaient courtes, pas pris beaucoup de vacances cet été, mais ça fait toujours du bien de rien faire.
Et t'as pu faire quelques sessions de jeu?
Ouais, bien sûr, plutôt des petits jeux de vacances quoi, pas des trucs trop prises de tête. Et toi, tes vacances?
Ouais, moi aussi j'ai pu organiser soit des week-ends un peu longs où on a fait plein de jeux, soit au hasard des gens qui venaient me rendre visite. C'est toujours facile de sortir un petit party game ou des petits jeux qui.
Salut vous deux!
Hey, salut Drew!
Salut Drew!
Comment ça va?
Bah, on parlait des vacances.
Ah, c'est un peu passé, mais c'est dommage, mais.
Ouais, bah, elles étaient bien quand même.
Ouais.
Vous avez quand même réussi à trouver un petit peu de temps pendant les vacances pour jouer, non?
Oui, bah oui, toujours.
Et alors, t'as joué à quoi?
Alors cet été, on est parti en vacances avec toute une troupe d'amis dans un gîte, et quand c'est comme ça, bah, tout le monde ramène un peu ses jeux. Et nous, quand on bouge, bah, on a souvent le réflexe de prendre des petits jeux in-games, parce que bah, t'en mets beaucoup dans la valise et ça prend pas beaucoup de place. Et là, cette fois-ci, on avait pris, comme bien souvent d'ailleurs, le jeu Durian. Durian, donc c'est, comme j'ai dit, un petit jeu in-games, hein, en taille, c'est la taille peut-être de deux boîtes d'allumettes, donc c'est assez facile. Et Durian, donc c'est un jeu de Masato Uesugi qu'on connaît notamment pour Paper Tales, la boîte blanche avec la tête de roi comme un vitrail.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est du papier, c'est des collages de papier, je crois.
Et Durian, c'est un jeu, il y a toujours le même effet quand on ouvre la boîte, il y a toujours un waouh des joueurs, parce que quand tu sors le matos, t'as une petite clochette comme ça, donc personne s'attend à voir du matériel comme ça dans une petite boîte. T'as des supports pour les cartes et tout, c'est super fini, donc t'as un effet déjà quand tu le poses sur la table qui impressionne tout le monde.
C'est vrai qu'elles sont bien remplies généralement les boîtes
ouais. De game. Bien remplies, et des fois c'est même la galère pour les refermer quoi. Quand tu ranges genre le scout, si tu prends pas 10 minutes pour bien ranger tous les jetons comme il faut, c'est un peu compliqué, mais là Durian et ça ouais. Va, il y a un peu plus de place quand même.
Dans Odor Overlord c'est pareil, tu sais pas bien ranger les cartes.
Ouais, c'est vrai. Et comme ils restent toujours sur leur même format de boîte, ils s'autorisent pas 5 mm de plus. C'est parfois un peu chaud. Et là, ça va, il y a de la place. Ce qu'il y a, effectivement, il y a une petite clochette. Il y a des cartes, principalement, et puis des supports en bois pour tenir tes cartes, ce qui est déjà aussi un petit peu qualitatif. C'est un jeu qu'on sort souvent parce que, aussi, ça permet de jouer jusqu'à 7. Et les jeux à fort nombre de joueurs, c'est assez rare. Et là, cet été, ben pareil, on avait envie de se faire un petit jeu rapide avant d'aller se coucher. Allez, une dernière partie, on va pas aller se coucher comme ça. Et du coup, je leur ai proposé un Durian, parce que pas mal de monde connaissait pas, et ça a permis comme ça de le faire découvrir. Donc c'est un jeu dans lequel on va devoir réaliser des commandes à partir de cartes. Sur ces cartes, il y a deux côtés, avec des fruits. Il y a toujours d'un côté un fruit, et de l'autre côté deux ou trois fruits. Et il y a quatre fruits différents, les fraises, les bananes, les raisins et le Durian. Justement.
Qui est un fruit qui a une odeur assez particulière.
C'est un fruit très particulier qu'on trouve pas en Europe, mais qui est assez connu en Asie.
Qui est interdit dans certains pays, ouais.
Ouais, parce que il est même interdit dans les avions, je crois, parce que c'est un fruit qui pue, faut le dire. Certains disent que ça pue la mort. J'ai pas senti ni l'un ni l'autre, donc je peux pas vous dire.
Mais... Oui, parce que en game, ils n'ont pas poussé la précision de l'édition à mettre quelque chose d'odorant dans la. C'est pas en odorama, quoi.
Non, et encore heureux, parce que sinon, ils en vendraient peut-être pas beaucoup. Mais et donc, ouais, le durian apparemment est un fruit très bon, mais qui sent très mauvais, donc et très caractéristique de l'Asie. Donc dans ce jeu-là, quand on va prendre une carte, on va la piocher à son tour de jeu et on va devoir la placer en l'orientant de manière à dire ben on va réaliser une commande à partir des fruits qui sont sur cette moitié de carte-là ou cette moitié de carte-là. Et en fait, la commande sera réalisée grâce à toute une série de cartes qu'on a tous devant nous. On a chacun une carte dont on ne voit pas le contenu. C'est-à-dire qu'on voit le contenu de tous les autres, mais pas le nôtre puisque les cartes sont à l'envers sur le petit porte-carte. Donc on connaît quasiment la totalité des fruits disponibles sur la table, sauf le nôtre. Et là, on doit choisir, avec ce qu'on voit, le côté de la petite carte pour pouvoir justement servir cette commande qu'on est en train de matérialiser au centre de la table à partir de ce qu'on a tous en stock commun entre nous. Et donc, je choisis par exemple de mettre trois bananes dans la commande, et donc mon voisin qui joue après moi doit dire « Ok ». avec ce que je vois, je valide ta commande de 3 bananes et je repioche une carte pour moi-même venir rajouter des fruits à la commande générale. Et on va donc comme ça ajouter des fruits, ajouter des fruits, ajouter des fruits. Et à un moment, eh ben, on va commencer à douter, à se dire, ben, vu tout ce qu'on me demande au milieu et vu ce que je vois sur les cartes de tout le monde, ben, j'ai l'impression que ça va pas passer. Et donc c'est là où on peut attraper la petite clochette et dire au joueur qui jouait avant nous, qui vient de mettre sa carte, lui dire « Ben non, je crois que tu te trompes, il n'y a pas assez ». Et là on révèle tous sa carte devant nous et on compte effectivement si les fruits sont bien présents en quantité suffisante ou pas. Donc si on a accusé notre voisin qui vient de jouer et qu'on a raison, ben il va prendre un jeton malus, c'est les jetons de colère du patron du magasin. Et si moi j'ai accusé mais qu'en fait il y avait suffisamment de choses, parce que sur ma carte, j'avais plein de fruits, et ben c'est moi qui me prends le jeton malus. Et on va faire comme ça plusieurs manches, sachant que les jetons malus, ben le premier jeton malus, c'est moins un point, le deuxième jeton, c'est moins deux, le troisième jeton, c'est moins trois, et on a comme ça des jetons jusqu'à moins sept, puisqu'en fait, la partie s'arrête dès qu'un joueur a sept points de malus. Et donc, on va faire comme ça des manches, et c'est ça que j'aime bien dans ce jeu, et surtout dans les dernières parties que j'ai eues, parce que dans ma semaine de vacances entre joueurs, j'ai eu un comportement que j'avais jamais eu, c'est-à-dire que j'ai des joueurs qui, dès les premières parties des premiers tours, partaient en bluffant. C'est-à-dire qu'ils annonçaient des fruits qui avaient pas suffisamment tôt la table, et donc ils faisaient croire à chacun qu'ils avaient ces fruits-là. Quoi. Par exemple, ils annonçaient un durian, alors qu'il n'y en avait pas du tout autour de la table de visible, donc tout le monde se dit « ben c'est bon, j'ai un durian », alors qu'il n'y en avait pas. Et du coup, ben les commandes étaient fausses dès le début, et ça continue comme ça, et c'était très 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 tendu, et au bout d'un moment, on se rend compte que ben, ça passe pas, on envoie, et ça passait pas depuis le début. Et ça, c'était, j'ai trouvé très fort. Et au-delà de ces cartes fruits, il y a 3 cartes spéciales en plus, qui vont faire, si on les a devant nous face cachée, vont apporter des petits twists. C'est-à-dire qu'il y a une carte qui dit ben j'ai une infinité de bananes, donc en gros toutes les bananes qui se retrouveraient au milieu seraient servies. Donc on commence quand on commence à avoir plein de bananes, tiens, on se dit j'ai peut-être l'infini banane. Il y a une autre carte, c'est toutes les demandes de 3 fruits vont être servies. Et il y a une dernière carte, ben j'ai 0 fruit devant moi. Et voilà. Donc ça permet aussi un peu de pimenter et d'aller chercher justement des petits bluffs comme ça qui n'auraient pas s'il n'y avait pas ces pouvoirs. Et ces pouvoirs-là, si je les ai pas devant moi, mais qu'ils apparaissent au moment où je les pioche, eh bien, ils vont me demander d'aller retourner une des cartes des commandes déjà posées. C'est-à-dire que si quelqu'un avait posé une banane parce que l'autre côté de la carte c'était 3 fraises, eh bien, je retourne et je mets 3 fraises à la place de la banane. Donc, toute la commande change en direct comme ça.
Oui, tu as des retournements de situation de plein de façons différentes.
Ouais,
tu peux pas programmer tellement à l'avance. Tu peux pas dire, OK, je vais aller sur ce rythme-là. Parce qu'à tout moment, il peut y avoir un effet qui va contredire ton plan, quoi.
Et puis, ce qui est malin aussi, c'est que tu as un point de bascule. Tu te dis, ben là, ce que mon voisin vient d'annoncer, ça doit pouvoir se servir. Et que ce que je vois, c'est bon. Par contre, si j'en pioche une, je suis sûr que ça passe plus. Alors, est-ce que je l'accuse quand même de pas pouvoir ou est-ce que j'en pioche une au hasard et je me plante moi-même? Et donc, comme ça, c'est un peu tendu. Parfois, on hésite à y aller. Est-ce que je pioche? Est-ce que j'annonce? Donc ça, c'est... Il y a toujours un petit peu ce moment de bascule dans les parties.
C'est marrant, à l'explication des règles, ça me fait pas mal penser à Stew ou à table pour la version française. Qui est dans les Button Micro Game, enfin la gamme de Matago, où j'ai l'impression que c'est un peu le même, du coup c'est un peu le même, les mêmes sensations, sauf que dans Durian, j'ai l'impression qu'il y a plus d'informations visibles, c'est un peu moins, y a un peu moins d'aléatoire, et il y a ces effets aussi qui rajoutent un peu de chaos et de surprise, on va dire, dans les prises de décision.
Dans Stew, je crois qu'il y a un aspect mémoire aussi, non?
Un petit peu, mais pas tellement.
Ouais, parce que là, sur Durian, t'as zéro mémoire. Vraiment, tout est sur la table, ouais. Que ça soit les cartes qui ont été jouées avant ou les cartes que chacun a devant soi. À tout moment, tu peux recontrôler, réestimer. Après, si tu veux vraiment t'amuser, tu peux essayer de regarder qui a posé quelle carte à chaque tour, mais ça va en général pas jusque-là. Quoi. Après, le point de bascule que je disais, c'est intéressant et parfois, tu le subis. Quoi. Tu te retrouves à la bascule et tu te dis « Ah ben, je vais me prendre des malus parce que... ben, » tout ce qu'il vient de dire, ça passe, mais si j'en rajoute un, ça passera pas. Et du coup, c'est intéressant, mais à la fois, tu le subis tellement dans certains cas que ben, c'est dommage. T'as pas ton mot à dire, quoi. Tu vas te prendre des malus de toute façon. Et donc, je disais, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer jusqu'à 7. Par contre, ben, forcément, avant que ça revienne à nous, il y a quand même pas mal de downtime. Donc, 5, 6, c'est bien.
Oui.
Par contre, 2, 3, ça perd un peu de sa saveur, quoi.
Ouais.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Quand tu joues à 7, il se peut très bien que la manche elle s'arrête bien avant que ça arrive à toi.
Ouais,
en fait,
ouais, c'est
si
ça.
T'es le 7e à jouer, faut le savoir, faut l'accepter.
Mm-hmm.
Chaque manche va pas se valoir en fait pour toi. Pour un joueur, oui, on peut passer à côté de quelques manches et pas participer. Par contre, tu t'amuses quand même de voir les autres se planter. Quoi.
Ouais, et puis il y a le petit truc autour de la table, c'est allez, vas-y, dénonce-le. C'est sûr que ça passe pas. Là, regarde avec tout ce qu'il y a, c'est sûr que ça passe pas. Donc t'as aussi cette petite émulation autour de la table. Où tu essayes de pousser les autres pour que ça n'arrive pas jusqu'à toi, parce que ça va poser un problème si ça vient jusqu'à toi. Donc, et après aussi, le souci quand tu joues à beaucoup, c'est que comme tu dois voir toutes les cartes sauf la tienne, à moins d'avoir une table ronde, c'est compliqué de trouver une disposition, parce que t'as vite fait de te pencher pour regarder celle de ton voisin et tu passes au-dessus de la tienne. Ou de renverser la tienne aussi, parce qu'il y a des petits supports en bois, mais c'est quand même assez instable. Mais... Donc voilà, c'est pour ça, 7... C'est un peu compliqué, moi, je dis. Ouais, plus 5-6, quoi. Et je crois qu'on avait joué ensemble, hein, Madin, c'était ça ?
Ouais, on avait joué. Avait joué à Cannes. Il y a un vrai plaisir coupable à aller sonner la cloche.
Ah
aussi.
Bah oui. Le matériel pousse au crime, hein.
Le petit accessoire qui tue, quoi.
Ouais, t'as envie d'aller la sonner, cette cloche, hein, même si ça passe.
Ouais, et puis ça fait partie de petit cérémonial. C'est-à-dire que quand tu veux pousser quelqu'un à clocher, bah, tu pousses la cloche devant lui. Allez, vas-y, cloche, pour essayer de le tenter.
Oui, puis ça rappelle la cloche du magasin. Tu sais, quand tu rentres dans l'épicerie et que t'as la cloche qui sonne quand t'ouvres la porte, bon, c'est... Voilà, ça met une petite ambiance, on va dire.
Ouais, non, il y a toujours de l'ambiance. Je crois que j'ai pas fait un durian qui est tombé à plat, tu vois. Il y a toujours une petite ambiance qui se crée, la rigolade, des choses comme ça. Tu vois, quand on le sort, on s'amuse encore. On a peut-être une quinzaine, une vingtaine de parties, mais ça marche toujours, quoi. Il y a toujours... On maîtrise pas le jeu. Tu peux pas maîtriser le jeu parce que c'est du hasard, quoi.
Mais c'est vrai que t'arrives à embarquer les gens, en fait. Et puis les gens te regardent jouer. Quand on y a joué, on était dans les allées de Cannes. Et ça attire forcément le regard parce que, bon, il y a la cloche, il y a les gens qui disent allez, vas-y. Oh non, c'est pas vrai, j'avais un fini banane. C'est vrai qu'il y a une vraie ambiance.
C'est clair.
Ok.
Et vous avez joué à quoi ?
Alors, moi, j'ai joué à un jeu que j'avais découvert en fin d'année dernière et j'ai refait des parties cet été. Ce jeu, c'est Perspective. Alors, je ne sais pas si vous voyez la boîte, c'est cette boîte orange délicieusement vintage, là, qui moi, me fait penser un peu à l'affiche de Vertigo. Je ne sais pas si vous voyez le film d'Hitchcock.
Oui,
en
fait, tout à
c'est
fait.
Une espèce de silhouette... un peu stylisé avec du noir. Et bon, la boîte, je trouve qu'elle est assez attirante. Donc, c'est sorti chez Space Cowboy en fin d'année dernière. Moi, c'était sous le sapin de Noël. Donc voilà, j'ai tout de suite fait une partie. Ça a été fait par Matthew Dunstan. Alors, on a entendu parler de lui cet été parce qu'il était nommé au Spiel pour la Guilde des Expéditions Marchandes. Bon, j'ai cru comprendre que l'ANA n'avait pas trop apprécié le jeu. mais bon, voilà, le Spiel, oui, puisqu'il a été nommé. Et c'est aussi celui qui a fait les Next Station. Elysium, que j'ai découvert aussi cet été. C'est Bubble Stories aussi, c'est un jeu que moi j'aime beaucoup faire jouer à des jeunes enfants à base de cartes et d'embranchements. Vraiment un chouette jeu pour jouer avec des enfants de 3, 4, 5 ans. Et puis Icos, qui est en fait le jeu d'enquête sonore où il faut remettre dans l'ordre des cartes en fonction d'une histoire qu'on va essayer de reconstituer. Bon bref, quelqu'un qui fait des jeux assez hétéroclites, et il est accompagné de Neil Dave, qui était aussi sur Echoes, et qui est sur un jeu qui est cher au cœur d'Elodie, c'est Les Animaux de Baker Street, dont elle nous a déjà parlé, notamment avec les illustrations de Biboun. Et il a fait aussi une boîte de Sherlock Holmes Détective Conseil, les Frontières de Baker Street. Bon, autant vous dire que moi j'étais conquise, quoi. C'était un jeu qui me tendait les bras, de par sa couverture et de par le pédigré des gens qui sont derrière. Et donc, comme je vous le disais, j'ai découvert le jeu l'année dernière. J'ai fait tout de suite le tuto et la première affaire pendant les vacances de Noël et avec un groupe de copains qui était là. Et j'ai refait des parties cet été avec ma fille qui a 15 ans et puis des copains de passage. Et alors, il se trouve que, avant de continuer, il faut que je précise que je ne suis pas tellement adepte des jeux coopératifs. Particulièrement quand ça se joue à plus que deux, parce que je trouve que l'effet leader, il est souvent présent. Moi, j'ai plutôt une personnalité qui a tendance à s'effacer pour laisser jouer les autres. Et en même temps, comme j'aime bien jouer, je suis frustrée de pas jouer. Et quand la partie est finie, je suis un peu deck de pas avoir joué autant. Vous voyez, je suis une femme de contradiction. Et il se trouve que Perspective est un jeu coop, et je crois que la meilleure configuration, c'est de jouer à 4 personnes. Bref, sur le papier, il y avait des choses qui étaient faites pour moi, mais cet aspect mécanique Vraiment, si j'avais su en fait que ça se jouait comme ça, peut-être j'y serais pas allée. Et pourtant, eh ben, ça m'a beaucoup plu. Et donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi tout ça, ça m'a plu. La première chose, c'est que pendant la partie, tout le monde a un rôle à jouer. Tu peux pas prendre la place de quelqu'un d'autre parce que on prend connaissance du contexte d'une affaire qui nous est proposée et on nous donne une question à laquelle on va devoir répondre une fois qu'on aura fini nos investigations. Et on se retrouve toutes et tous avec trois cartes. Enfin, si on joue à quatre personnes, on a chacun trois cartes. Et on est absolument les seuls à connaître le contenu de ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur des cartes? Il y a des photos, il y a des caméras de vidéosurveillance, il y a des lettres, des rapports, des dossiers, enfin tout un tas de choses. Et ces cartes, on ne les a pas de façon aléatoire, on les reçoit dans un ordre précis, c'est-à-dire qu'elles sont numérotées de 1 à 12. Et le premier joueur va avoir la première carte, le second la deuxième, 3 à 4. Et le premier joueur va avoir la cinquième carte, etc. Donc en fait, les trios sont pensés à l'avance. Contrairement à un jeu comme Sherlock Q-System, je ne sais pas si c'est un jeu que vous connaissez, où là aussi, il y a une histoire d'information et de communication à donner, sauf que c'est complètement par hasard que les cartes sont données. Je crois même qu'on les mélange. Et ce qui fait que d'une partie sur l'autre, d'un groupe de joueurs à l'autre, on peut avoir les informations qui arrivent dans des sens complètement différents. Et ça peut nuire à la qualité de la partie. Là, c'est fait exprès, on doit avoir trois cartes qui vont bien ensemble. Alors pourquoi ce choix de mécanique? C'est parce que quand tu prends une carte toute seule, isolément, en fait, tu as du mal à la comprendre complètement, à l'interpréter complètement. Tu vois bien que c'est une lettre, tu vois bien que c'est une photo, mais comme tu n'as qu'une partie des informations de l'histoire, bah ça ne fera sens qu'une fois qu'on aura commencé à échanger avec les autres. Parce que tour à tour, alors pas dans un ordre défini, mais dans un ordre qui va se faire au fil de la manche, on va décrire les cartes que l'on a. En fait, c'est un jeu de communication sur cette partie-là. Et quand on va avoir connaissance de ces informations, eh bien, on va commencer à faire des liens avec les éléments qu'on possède. En tout cas, moi, il y a des moments que j'adore. Il y a le moment où on commence à mieux comprendre ce qu'on est en train de regarder depuis le début de la partie, parce que quelqu'un nous a donné un élément qui nous aide à mieux percevoir ce que c'est. Il y a le moment où on se dit, tiens, à quel moment moi je vais donner l'info que les autres n'ont pas encore? Vous voyez, il y a une espèce de... On ménage un peu son effet, quoi. Il y a quelqu'un qui est en train de parler d'une lettre. Cette lettre, elle est signée par les initiales MP. Voilà, c'est bien mystérieux. Et toi, tu as une carte qui te permet de savoir qui c'est ce MP. Et donc, tu laisses un peu les gens, ah oui, d'accord, se poser des questions. Puis à un moment donné, tu dis... moi, je sais qui c'est, MP. Avant, tu sais qui c'est. Enfin, voilà. Donc ça, j'adore. Voilà les effets qu'on peut faire comme ça. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est le moment où tu comprends que tu croyais que la personne était en train de faire tel geste. Par exemple, elle refusait quelque chose alors qu'elle était en train de le prendre, ou inversement. Voyez, en fait, parfois même, on interprète mal ce qu'on est en train de regarder. Et quand tu as cette épiphanie de te dire « Ah oui, ok, c'était pas du tout ce que j'avais compris. » Ça peut être par exemple une phrase que tu vas interpréter dans un sens et en fait, ça voulait dire complètement autre chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais. Oui, c'est tout le principe des informations croisées en fait qui seules n'ont pas forcément de sens ou un sens qui peut être mal interprété, mais en recoupant les infos, la lumière se fait sur les réelles informations que tu possèdes, quoi.
Voilà, exactement. Et puis, il y a un autre moment que j'aime bien aussi dans les différentes affaires que j'ai faites, c'est tu trouves un peu l'astuce qui va te permettre d'innocenter un gars ou d'orienter les choses ou de les mettre dans un ordre chronologique. Il y a toujours un petit truc à trouver, un petit moment où on se dit « Ah bah oui, mais c'est ça qu'il faut faire ». Et ça vient pas tout de suite, parce que en fait ce qui se passe par rapport à un Sherlock Q-System, c'est que dans Q-System on doit défausser des cartes et retenir des informations, et donc y a une espèce de charge mentale qui arrive que je trouve un peu inutile. Et puis en fonction du moment où tu découvres les cartes, parce qu'il y en a énormément, et ben peut-être tu ne perçois pas l'importance de telle ou telle carte, parce qu'il va falloir les trier, ces cartes, tout en ayant des infos parcellaires. Là, les infos, on les a toutes. Et puis, on peut les garder en main. Il n'y a pas de côté artificiel de bah, « tu vas te forcer à retenir les informations ». C'est juste une histoire de tempo sur à quel moment les informations vont se faire. Alors, est-ce que c'est un jeu d'enquête ou pas ? Moi, je trouve que Perspective, il propose quelque chose de nouveau. C'est dans tous les jeux d'enquête, au départ, on est dans le brouillard. On a un contexte, on a une situation qu'on va essayer de résoudre. Et au fur et à mesure, ce brouillard, il va se lever progressivement en fonction des indices que tu vas récupérer. Donc dans un Chronicles of Crime ou dans un Sherlock Holmes Détective Conseil, tu vas aller voir des suspects, tu vas croiser les infos. Là, finalement, c'est les partenaires de jeu qui ont les informations, sauf qu'ils savent pas ce qui est crucial de ce qui l'est pas. Donc finalement, tu as quand même des sentiments de mener une enquête, puisque tu vas dissiper ce brouillard dont je parlais au fur et à mesure des indices. Mmh. Et puis tu vas faire des hypothèses en fonction de l'ordre dans lequel les indices arrivent. Et puis alors je vais pas spoiler, mais il y a des trucs qui sont assez bien trouvés où tu as ta carte et puis tu te marres parce que tu comprends l'astuce pas tout de suite. Bon, allez, si, je vais spoiler un peu. Bon, pour ceux qui veulent pas se faire spoiler, avancer de 10 secondes. Il y a une carte qui est toute noire. Et en fait, ça a du sens. Mais quand tu la récupères, tu dis, mais c'est quoi cette blague, quoi? Voilà.
Moi, j'avais vu qu'on jouait avec la boîte aussi, avec les dessins sur la boîte.
En fait, t'as une petite enquête sur la boîte.
C'est ça, c'est le tutoriel, en fait.
D'accord.
Donc tu commences à jouer avec la boîte en tuto pour comprendre le principe, et puis après tu as trois enquêtes, ils appellent ça trois affaires, et chaque affaire, mais j'allais y venir un peu après, mais chaque affaire est découpée en quatre actes. Mais j'y reviens juste après. Je voulais juste terminer sur cette histoire de enquête ou pas enquête. En fait, ce qui se passe, c'est que si tu as les 12 cartes sur la table en même temps, et que tu les vois toutes face visible, l'enquête elle est assez triviale. C'est-à-dire que c'est pas bien compliqué. Et en même temps, ça fait une affaire, une histoire qui se tient, quoi. Il n'y a pas d'incohérence. Moi, j'ai fait... je crois que j'ai joué à tous les jeux d'enquête qui sont sortis, pas loin. Et parfois, il y a des enquêtes qui sont extrêmement alambiquées. Et en fait, quand tu as fini, tu as un goût bizarre parce que... parce qu'il y a des choses qui tiennent pas trop la route. Alors, je vais pas dénoncer ici des jeux d'enquête qui m'ont moins plu, mais là, c'est vrai que c'est simple, mais ça se tient. Et si on avait toutes les cartes en main, il y aurait pas d'intérêt, parce que, oui, en fait, c'est comme un puzzle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas bien compliqué. Tout le sel, ça va être la mise en scène de comment on donne les infos, à quel moment quelqu'un va prendre la parole pour parler d'une de ses cartes. Toi, ça va te donner envie de rebondir pour compléter ce que la personne a dit. Et c'est ça le plaisir. Et on arrive à une résolution que moi, je trouve satisfaisante parce qu'en fait, on va y arriver. Il n'y a pas d'enjeu tellement sur « je ne vais pas y arriver ».
C'est un jeu, tu n'as pas de limite en fait. Tu n'as pas de nombre de coups limités ou de chrono. Tu prends le temps que tu veux, tu discutes...
En tous les cas, quand on a fini nos discussions, on accède à un questionnaire où il y a la première question qui nous avait été posée au départ, et puis il y a trois ou quatre, je ne sais plus, questions un peu subsidiaires, mais qui sont assez simples en fait. C'est juste pour confirmer un peu la construction de l'histoire qu'on a faite ensemble en fait. Mmh. Et donc, dans la boîte, il y a trois affaires. Elles sont découpées en quatre actes. Les trois premiers actes ont 12 cartes. Et ont leur propre questionnaire. Généralement, il y a une chronologie, enfin, il y a une suite entre ces trois affaires. Et le quatrième acte, tu reprends les 3x12 cartes que tu avais déjà utilisées, tu les mets face visible au centre de la table, et avec un nouveau questionnaire, un nouveau questionnement, on va les revisiter. Et là, encore, sans être d'une grande complexité, ça tient la route et il y a des petits effets de surprise qui sont sympathiques sur des détails de certaines cartes qui étaient passées au second plan dans l'affaire quand tu l'avais résolue et qui vont prendre plus de valeur dans la résolution du quatrième acte. Et je trouve que c'est bien sympathique. Une fois de plus, ça révolutionne pas tout, c'est pas extraordinaire, mais c'est propre et puis c'est amusant en fait de se dire « Ah oui, donc c'était ça ». Ensuite, je voulais juste dire un mot sur l'édition et le mode de rangement C'est sous forme d'enveloppe avec des intercalaires et franchement, c'est impeccable. C'est hyper efficace. Le tuto, on en a parlé sur la boîte, c'est une super idée. C'est hyper élégant en plus. Graphiquement, c'est ultra léché. C'est vraiment, vraiment chouette. Alors, ça a un goût un petit peu différent du jeu après avec les cartes, mais ça donne une bonne première impression, quoi. Ça te lance bien. Donc ça, j'ai trouvé vraiment ça fort sympathique.
Ouais, parce que du coup, chaque joueur, joueuse voit un côté de la boîte et du coup donne les informations qu'il voit ou qu'il interprète de leur côté de la boîte. Enfin, du coup, il y a quand même le principe, effectivement, il y a ce principe-là de la suite du jeu, quoi.
Ouais, et l'idée d'être à quatre. Bon, en tout cas, j'ai fait toutes les affaires, j'ai passé à chaque fois un super moment. En jouant en plus avec des gens de profils complètement différents, du joueur occasionnel au joueur bien gamer. Et à chaque fois, la mayonnaise, ça a pris. Je ne sais pas si l'expression existe, mais bon, je la sors comme ça.
Non, ça existe.
Il y a des fois où on a fait des schémas, il y a des fois où on a fait un tableau avec les infos sur les personnages, on s'est passé le crayon, on a fait des débats, bref, on y a joué vraiment à fond, quoi. Et ma fille, dont je parlais au début, elle a vraiment adoré. Donc moi, quand ma fille adore, bah moi c'est un, c'est comment ça s'appelle, seal of approval, tu vois, comme dans Dice Tower, quoi. Tu te dis bon, ok, c'est pas mal, j'ai une entrée pour jouer avec elle. Et j'ai appris qu'il allait avoir la boîte bleue qui allait sortir au mois de novembre. Et donc elle a hâte que ce soit disponible à la Caverne du Gobelin. Et moi j'ai hâte de jouer avec elle parce que c'était vraiment un bon moment partagé.
Et voilà le cadeau de Noël de cette année.
Voilà, bah ils le sortent au bon moment, c'est parfait. Et toi Ben, alors, t'as joué à quoi ?
Alors moi, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Les 5 Tours. En fait, il faut savoir que de mon côté, on est en train de préparer le festival qu'on fait dans notre ville avec notre asso. Et du coup, c'était un peu la fin de l'été, c'était un peu l'occasion de, bah, d'acheter des jeux, de un peu sélectionner les jeux qu'on allait présenter au festival. Et du coup, on a vu qu'il y avait Les 5 Tours, qui est un jeu de Casper Lapp, du coup, qui est la personne, l'auteur qui a créé Magic Maze, notamment, et That's Not a Hat. Voilà, pour ces deux productions les plus connues, sûrement, qui ont toutes les deux eu le droit à un jeu du mois chez Proxy Jeux.
Ouais, sur un CV, c'est pas mal.
Et du coup, on a vu qu'il avait sorti un jeu récemment, là, je crois que c'est sorti l'année dernière en Allemagne, mais ça a été localisé par Yellow en France au printemps. Et donc, Les 5 Tours, c'est un petit jeu de cartes, pareil, une boîte pas très grande, alors c'est un peu plus grand que les One Game, mais c'est pas très grand, puisque c'est que des cartes, dans lequel il va falloir que chaque joueur et joueuse fasse les 5 plus belles tours possibles, puisque du coup il y a 5 couleurs de tours qu'on peut faire, donc sur chaque carte il y a une couleur, et il y a des morceaux de la tour qui vont de 15 à 0, 15 étant les morceaux les plus larges, donc la base, et 0 étant le toit de la tour. Donc tout l'objectif du jeu, ça va être de récupérer les meilleures cartes au bon moment pour faire la tour la plus haute possible. Bien sûr, une fois que j'ai mis un 1 par exemple, je ne peux pas remettre un 15 par-dessus parce que ça tient pas, hein, faut faire une tour qui va du plus large au plus fin au sommet. Et donc on va dire le petit sel du jeu, ça va être la manière de récupérer ces cartes. Comment on va récupérer ces cartes ? En fait, à chaque tour, on va placer 5 cartes au milieu de la table et il va y avoir une enchère. Et l'enchère, c'est pas une enchère sur combien je vais dépenser ou qu'est-ce que je vais donner pour récupérer les cartes. L'enchère va tout simplement être sur le nombre de cartes que je suis prête à prendre. Et du coup, des fois, il y a des cartes qui vont pas m'arranger. Mais si je veux récupérer d'autres cartes qui m'arrangent, je vais devoir faire une enchère plus haute. Et du coup, récupérer un peu des cartes qui vont me pourrir un petit peu mes tours. Donc tout l'intérêt est là. C'est pas révolutionnaire, mais ça marche bien, ce petit côté enchère un peu original. Donc ça fait que, par exemple, si j'ai que 2 cartes sur les 5 qui m'intéressent, je vais pouvoir lancer une enchère à 2. Sauf que si quelqu'un dit 3 derrière, qui va prendre 3 cartes, je vais perdre mon enchère. On peut enchérir comme ça jusqu'à que quelqu'un dise 5. Si quelqu'un dit 5, de toute façon, c'est la totalité des cartes, donc il est obligé de prendre toutes les cartes au milieu et de les placer dans ses tours. Donc, comme je l'ai dit, il y a 5 couleurs de tours. On est obligé de pouvoir placer ses cartes, C'est-à-dire que si on fait une enchère, on peut pas dire bon bah je fais une enchère et en fait ces cartes-là je les utilise pas. On est obligé de les placer. Si on peut pas les placer, bah en fait c'est un coup un peu nul. On remet les cartes au milieu, on refait les enchères parce que ça ne marche pas. La seule possibilité un peu de réagencer ses tours, c'est que quand on gagne une enchère, on a le droit d'enlever un morceau supérieur d'une de ses tours, de la mettre de côté, de la défausser. Mais ça, ça fera des points négatifs à la fin. Après, il y a quelques cartes un peu spéciales. Il y a le 9 par exemple qui peut être posé. C'est son bonus peut être posé sur un morceau de tour qui est plus petit. Par exemple, si j'ai un 1 ou un 2, je peux poser un 9 par-dessus et après repartir à partir du 9. Donc mettre un 7, un 6, enfin des cartes plus petites au-dessus. Et j'ai le 8 qui est l'inverse. Le 8, on peut repartir avec des cartes plus grosses au-dessus. Donc si je mets un 8, je peux repartir avec un 15 au-dessus. C'est des cartes qui rétrécissent ou qui agrandissent comme ça, là, enfin, qui changent la largeur un peu de la tour. Et donc on va faire des tours comme ça jusqu'à que la pioche, en gros, soit jouée deux fois. On va avoir la pioche, on va mettre 5 cartes, on va faire des enchères, etc. On va commencer à constituer nos tours. Et on va vider la pioche deux fois. Quand la pioche a été vidée deux fois, c'est la fin de partie. Et on va compter les points et regarder qui a les plus grandes tours. Donc en gros, on va faire tout simplement, le comptage est assez simple. On va faire un point par étage dans chacune de nos tours. La plus grande tour, on va la compter deux fois. La tour, on a le plus de cartes dans la tour, bah, on va compter les points deux fois. Et globalement, les tours sur lesquelles on a réussi à mettre un toit, le toit c'est la carte 0, eh bien on va multiplier le nombre de cartes dans la tour par 2 pour faire les points. C'est aussi bête que ça, ça tourne assez bien. Enfin, j'ai fait quelques parties pour tester. À 3, à 4 joueurs, ça joue de 2 à 5. J'ai pas fait toutes les configurations, mais ça c'est plutôt assez efficace. Encore une fois, je pense pas que ce sera un jeu dans la même trempe que Magic Maze, ou enfin qui va rester dans les mémoires autant que Magic Maze ou That's Not a Hat concernant la production de Casper Lapp. Mais ça reste un petit jeu agréable. Je ne sais pas si c'est un jeu qui se renouvelle beaucoup, par contre. J'en ai fait quelques parties, c'est cool. J'aurais peut-être envie d'en refaire plus tard, mais c'est pas un jeu que je vais vouloir sortir à tout prix, que je vais vouloir recommencer. Enfin, c'est pas assez. Y a pas assez, on va dire, de possibilités pour que ça soit un jeu très rejouable. Mais en tout cas, c'est petit, ça s'emmène bien en vacances. Voilà, c'est plutôt rigolo. Je sais pas si vous y avez joué de votre côté.
On l'avait découvert à ESL l'année dernière, on l'avait ramené d'ailleurs. On a eu l'occasion pareil de le faire découvrir pas mal autour de nous.
Ouais.
Et la petite partie intéressante aussi, c'est dans les enchères. Parce qu'on va parler qu'une fois, en fait. En enchère, peut faire qu'un tour.
Oui.
Et des fois, tu te pousses à prendre plus que tu ne pourrais prendre, quitte à t'handicaper un peu, pour que le suivant prenne...
Ne puisse pas prendre.
Bah, soit ne puisse pas prendre, soit obligé de prendre plus que ce dont il aurait besoin, et prenne une carte malus. Mais prendre une carte malus parce que, ben... Enfin, quand je dis malus, c'est qu'il n'intéresse pas, mais parce qu'il y a vraiment des cartes qui l'intéressent fortement à côté de celle-là, quoi. Et c'est là-dessus que le petit point est pareil. Comme je disais tout à l'heure pour Durian, bah, tu vas essayer de pousser les gens à prendre plus de cartes pour empêcher les suivants de maximiser leur tour s'ils sont déjà en avance sur tout le monde. Quoi. C'est...
Ouais. Ce qui est marrant aussi, du coup, c'est pour rejoindre ça, c'est le rythme aussi au cours de la partie, parce que forcément, au début, les enchères vont être assez faibles. Tu ne veux pas t'embêter avec des cartes très faibles dès le début. Donc au début, les enchères ne vont pas monter très haut. Voilà, ça va être très, très timide. Et plus on avance dans la partie, notamment quand on a épuisé la pioche une première fois et qu'on va sortir des cartes. Bon, là, généralement, les gens ont un peu leur début de tour, etc. Et donc là, les gens vont plus aller chercher des cartes, chercher des toits, justement, pour faire les x2, etc. Donc c'est là où le côté enchère s'emballe un petit peu et on peut avoir ce genre de cas de figure où on enchérit plus qu'on ne voudrait pour essayer de forcer celui d'après à prendre des mauvaises cartes.
Ouais, ou alors, foutu pour foutu, on y va franchement.
Il y a ça aussi, ouais.
Ouais, mais alors tu ne peux pas... En fait, tu peux pas y aller franchement en mode « on s'en fout, j'en prends 5 » parce qu'il faut que tu puisses placer les cartes. Et ça te limite quand même vachement dans ton enchère, parce qu'à partir du moment où il y a une combinaison de cartes et que tu peux en placer qu'une, par exemple, bah tu ne vas pas pouvoir lancer une enchère à 2 ou 3. Il faut que tu lances une enchère que tu puisses absorber, entre guillemets.
Mais la pioche, elle est constituée par les cartes qui ne sont pas prises lors des enchères, c'est ça?
Ouais.
Donc la deuxième série de pioches, elle est vachement plus courte, en fait, que la première.
Elle peut être plus courte. Et généralement, elle est plus courte, mais elle est aussi constituée de cartes plus faibles, puisqu'au début, tu vas prendre des cartes plus fortes. Et du coup, sur la deuxième partie, quand tes tours sont déjà bien avancés, tu vas prendre des cartes plus faibles. Et surtout, il va y avoir dans la deuxième pioche beaucoup de cartes zéro, qui sont les fameux toits, qui valent, quand tu les places, x2 pour ta tour. Et donc, il va y avoir vraiment, je pense, enfin, souvent, il y a une course pour choper ces fameux toits. Et c'est là où tu vas des fois sacrifier certaines de tes tours pour réussir à multiplier par deux tes tours les plus flamboyantes. Mmh.
Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'il y a un petit phénomène de rattrapage. C'est-à-dire que quelqu'un qui construirait beaucoup et rapidement, et en fait, il va être très vite limité, parce que ses tours étant assez hauts, il va y avoir des petits chiffres, et quand des gros chiffres vont sortir, il va pas pouvoir les prendre, donc il pourra enchérir peut-être sur 2-3 cartes, et du coup, bah, les suivants peuvent enchérir par-dessus. Et donc, tu as comme ça un petit rééquilibrage qui se fait, dans le fait que bah, quelqu'un qui est parti fort, et il va être limité, voire pas pouvoir jouer sur plusieurs tours d'affilée, parce que les cartes qui sortent ne correspondent pas à ce qu'il a, quoi.
Ouais. Et du coup, les cartes bonus, les fameux 8 et 9, sont aussi des cartes très, très prisées. Donc, des tours d'enchères, dès qu'il y a un 8 ou un 9, on sait que le tour d'enchères... Enfin, c'est là aussi on a intérêt à enchérir assez fort dès le début pour essayer de les récupérer. Et puis, il y a la petite mécanique de pouvoir enlever une carte aussi. Alors ça, c'est bien parce que ça rend le jeu pas complètement punitif de « ben j'ai pas réussi à avoir les bonnes cartes » ou « je suis bloqué et du coup je peux plus enchérir ». On peut toujours en enlever une, donc ça offre de la possibilité pour l'enchère. Par contre, ça peut être très très violent, puisque la première carte qu'on enlève, c'est -1 à la fin, la deuxième c'est -2, la troisième c'est -3, etc. Donc si on en enlève trop, si on en met trop de côté quand on gagne une enchère, ça peut très vite faire beaucoup de points négatifs. Donc il y a ce petit équilibrage aussi sur on peut le faire, mais faut bien réfléchir à quand on le fait, comment on le fait, parce que c'est pas non plus sans conséquence.
Ah bah c'est clair, parce que écarter 3 cartes, ça te fait -6, ça équivaut à une tour de 6 étages. C'est énorme, oui, dans le jeu. Donc.
C'est énorme, ouais, clairement.
Alors moi, je n'y ai pas joué, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de clins d'œil à la pop culture, c'est ça, dans les illustrations?
Ouais, tout à fait. En fait, donc tu as 5 couleurs de tour. Et oui, il y a pas mal de petites illustrations sur chacun des étages. Voilà, il y a une tour un peu plus médiévale. Et il y a plein de petits clins d'œil. Bah, sur la tour bonbon, il y a le bonhomme... Le bonhomme chamallow de Ghostbusters. Il y a des petits... Il y a sur une tour grise, je crois qu'il y a un alien aussi. Enfin, ouais, il y a plein... Il y a une tour un peu forêt, etc. Il y a un Ewok. Enfin, effectivement, il y a plein de petits clins d'œil sur les illustrations, ouais.
Ouais, les éditeurs se sont fait plaisir.
C'est ça. Et puis, l'illustratrice qui est, du coup, Annika Heller, qui a dû s'amuser à dessiner tout ça.
Ah ouais, c'est marrant à chercher, et puis une fois que t'en as trouvé un, tu commences à regarder toutes les cartes, voir qu'est-ce qu'il y a, et puis je connais pas celui-là, toi tu connais, là, c'est rigolo, mais de plus en plus maintenant dans les jeux, il y avait déjà ça, dans les King Domino, je crois, ça avait commencé comme ça.
Oui, ouais, c'est vrai que après il y a des enfin on n'a pas forcément toutes les références, après c'est, voilà, il y a peut-être des références un peu allemandes qu'on n'a pas, mais globalement il y a beaucoup de grosses références pop culture qui sont assez évidentes, ouais.
Bon, ben moi je vais aller surfer sur internet, trouver des images des tours pour essayer de trouver un maximum de références.
Ça marche.
À bientôt, salut.
Salut.
Bah salut, joue bien.
Joue bien.